Personnellement, je suis très réjoui que dans notre Église, nous fêtons les fêtes chrétiennes. C'est important. Et d'avoir un culte le vendredi saint. Et bien sûr, le dimanche de Pâques. Ce matin, je vais parler sur Jésus et la victime expiatoire. Une phrase un peu compliquée. Vous ne l'entendez pas souvent de nos jours. Vendredi saint est à mes yeux, à nos yeux, un moment important pour nous rappeler que Jésus, c'est mon sauveur, c'est notre sauveur. Quelqu'un a prié ce matin en disant « Tu es Jésus, mon sauveur ». Et 3 jours après, Pâques, c'est le moment de célébrer Jésus comme mon Seigneur. Il est mon sauveur et il est mon Seigneur. Et si j'ai choisi cet agneau, ce n'est pas parce que nous trouvons dans certaines boulangeries, dans cette période, le petit agneau sucré du matin pour son petit déjeuner ou pour sa grillade du week-end familial, les côtes d'agneau que l'on se réjouit de déguster. Si j'ai choisi cette image, c'est parce qu'il est vraiment l'agneau. Et c'est tellement biblique. Il est vraiment l'agneau pascal. C'est-à-dire, il est vraiment cet agneau pur, sans tache, innocent, fragile, qui est venu sur cette terre. C'est incroyable. La visitation de Dieu passe par l'agneau pascal. Jésus, victime expiatoire, à travers l'image de l'agneau. Un langage presque plus courant de nos jours, et pourtant important en ce vendredi saint. Je vais développer cela. Pour Dieu, il est non coupable. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu cette décision dans le ciel d'envoyer Jésus, il n'allait pas envoyer un ange déchu, quelqu'un avec un passé lourd. Notre Dieu a choisi le meilleur pour nous. Il a choisi la pureté de son Fils. Il était tellement fier de son Fils. Moi, je suis papa avec 4 enfants. Plus les années passent, plus on vit un lien fort. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais c'est bon de reconnaître nos enfants. Jésus reconnaissait en son Fils quelqu'un d'extraordinaire. Il était fier de son Fils. C'était la pureté même, Jésus. Sa réputation dans le ciel était excellente. Pour Dieu, il était non coupable. Et quand il va venir sur cette terre, Dieu envoie un Fils non coupable. Jésus est celui qui a subi le procès le plus injuste que toute l'histoire humaine a connu. Il n'a pas fui le jugement, mais l'a assumé en donnant sa vie, en allant jusqu'au bout. Jésus a accepté une mission incroyable, venir ici-bas, mourir sur une croix. Vous savez qu'à l'époque, c'était un endroit de malédiction, la croix, pour des prisonniers graves. Mourir sur une croix comme un malfrat, subir Golgotha, tout le combat physique et le combat spirituel et intérieur, à ma place, à notre place. Et c'est vrai que je dois prendre plusieurs fois la parole dans cette semaine pascale, hier pour un service funèbre, aujourd'hui dimanche. Je prie, mes amis, que nous ayons une révélation nouvelle de la croix. Jésus ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Toute sa vie terrestre, il a démontré l'amour véritable. C'est ce qu'on appelle, quand on fait une formation biblique, théologique, c'est ce qu'on appelle la sotériologie. C'est-à-dire la doctrine du salut. Il n'y a pas de salut en Dieu le Père sans un engagement sacrificiel. Il n'y a pas de salut en Dieu le Père sans que le sang coule. Et sur la croix, il n'y a pas une goutte de sang de Jésus qui est tombée à terre inutilement. Quelqu'un devait mourir pour le rachat. On appelle ça la rédemption, le rachat de nos fautes. Souvent, on dit, on est dans un monde rebelle sans Dieu, puis on dit, ce monde a besoin de Dieu, ce monde s'est éloigné. Mais ce matin, je ne parle pas des autres, je parle de moi, je parle de vous, je parle de nous. Le besoin de la rédemption. Quelqu'un devait payer le prix fort pour que justice soit faite, pour que la réparation soit validée. Il y avait rupture de communion entre Dieu et les hommes. Et Jésus est venu et son engagement total, réparation, a été faite. Dans le ciel de gloire, une question lui a été posée. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce niveau-là. Moi, je crois que la Trinité s'est réunie. Ça a été un moment incroyable, d'une extrêmement grave, un moment solennel et très grave, très lourd, certainement. Et je pense que le Père a posé la question au Fils, en présence de l'Esprit, un seul Dieu en trois personnes, et pas seulement trois fonctions, mais trois personnes, une communion entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et je crois que Dieu a posé la question, Dieu le Père, un Père qui pose la question à Jésus, un Fils, acceptes-tu de descendre sur cette terre et de devenir le Sauveur du monde? On n'y pense pas assez, on n'y pense pas souvent. Jésus avait le choix de dire oui, Jésus avait le choix de dire non. Et d'ailleurs, il y a eu une prière qui allait dans le sens que la croix, c'est pas, comment dire, il n'a pas été sur la croix à cause de la dureté des hommes, mais c'était son choix volontaire. Il y avait une prière dans ce sens-là tout à l'heure. Il avait le choix de dire oui ou il avait le choix de dire non. C'est donc d'un commun accord avec Dieu le Père, avec l'Esprit et lui-même au centre de cette révélation que cette décision a été prise. Rappelons-nous tous les sacrifices dans l'Ancien Testament. Moi, des fois, quand je lis certains extraits, je ne dirais pas que c'est angoissant, mais c'est lourd. Le culte juif, c'est très profond dans la signification. Mais tous les animaux, tous les sacrifices qui ont été vécus, tout ce sang qui a coulé, pour comme annonciateur, comme appel, pour un sacrifice tout suffisant qu'allait incarner Jésus. J'espère que vous êtes un peu dépassé. Moi, je suis un peu dépassé par tout ça. Je comprends, je peux l'expliquer comme ça. Mais ce choix de Dieu, y compris sur des millénaires où le sang coule, pour arriver au point culminant, la révélation christocentrique, Jésus au centre, la croix, Golgotha, le calvaire, ce sang qui coule, et à ce moment-là, il y a l'approbation de Dieu, c'est tout suffisant. Plus besoin que d'autres sacrifices soient commis encore. Oui, il est la victime expiatoire, une victime innocente. Il a expié mon péché, notre péché, le péché de l'humanité. Et quand je dis que c'était un procès le plus injuste, parce que sur la croix, il n'était pas coupable des crimes qu'on lui reprochait, mais il n'était pas non plus coupable des crimes des autres. Non seulement il assume son choix responsable, mais il assume la culpabilité des autres. Jésus déclaré coupable les raisons. Alors nous allons lire maintenant Jean 19, qui est mon texte central ce matin. J'ai beaucoup aimé ce parcours méditatif. C'était important, c'est pas fini d'ailleurs. On va lire maintenant Jean 19, 1 à 16. Et vous allez voir dans ce texte montre les tensions terribles à l'époque du Christ entre une foule qui est, pour la plupart, dans l'admiration devant Jésus, par rapport à qui il était, ce qu'il disait, ce qu'il vivait, ce qu'il faisait, ce qu'il incarnait, et en même temps, des autorités religieuses absolument remontées contre lui. Il était détesté ou adulé. C'était juste incroyable. Nous allons lire cela maintenant. Et ça s'affiche sur le mur. Jean 19. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait déclarer fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit « C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus en dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé en hébreu. Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Ils s'écrièrent alors, « À mort ! À mort ! Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur !» Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Remettre la suite. Par rapport à tout ce que nous avons lu, nous avons la démonstration à travers cette lecture qu'il a été déclaré coupable devant les hommes, particulièrement devant les chefs religieux. Je dis juste en passant que quand on va en Israël, j'ai conduit plusieurs fois des groupes en Israël, l'endroit où il a été jugé, on dit que la même foule qui a acclamé Jésus au rameau, c'est la même foule qui l'a condamné. C'est faux de dire cela. C'était pas du tout possible. Il y avait des milliers de personnes qui accueillait Jésus au rameau. Et quand il y a eu l'arrestation et ce procès, l'endroit où cela s'est passé ne pouvait absolument pas contenir des centaines de personnes. Je le dis juste parce que
On a dit beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, aussi par rapport comme une malédiction qui serait tombée sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire la même foule qui l'aurait acclamé puis renié après, ce qui est un tissu de mensonges. Déclarer coupable et raison, c'est ce que nous allons voir maintenant avec des chefs d'accusation qui sont dressés contre lui. Pilate, je ne dirais pas qu'il m'est sympathique, pas du tout, mais quand même, il s'est posé des questions. Il a été troublé. Je dirais pas qu'il a failli se convertir, mais c'était terriblement intrigant pour lui. En tout cas, il n'avait qu'une envie, c'était de relâcher Jésus et de passer à un autre dossier. Pilate sait qu'il a une mission très difficile. En tant que gouverneur romain, responsable de la Judée, il se doit de faire régner l'ordre avec une main de fer et de juger les condamnés. Cette mission lui appartient. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il aimerait que ça se termine comme ça dans ce que je vais vous dire. Afin de calmer quelque peu les opposants de Jésus, il va ordonner de faire fouetter notre Seigneur. Et le supplice de l'époque, c'était ce fameux fouet romain. C'était terrible. Le prisonnier qui le subissait pouvait en mourir. On dénudait la personne. On attachait les mains de l'accusé. Et on frappait très fort avec trois lanières incrustées de morceaux de plomb. Et le nombre de coups dépendait de la gravité du crime commis. Dans la loi juive, on ne pouvait pas dépasser 40 coups. Alors, comme le crime de Jésus est terrible pour ses détracteurs, j'imagine qu'il a reçu 5 coups de fouet. Mais certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne prendrai pas le risque de dire combien. Parce que je ne le sais pas. Pilate aimerait qu'on le laisse tranquille ensuite. Et que ce dossier troublant soit refermé. Il a presque envie de dire maintenant, il a eu son compte, il a failli en mourir, maintenant, c'est bon, quoi. Vous dites qu'il est coupable, pas pour moi, je l'ai quand même fait fouetter, maintenant, on pourrait s'arrêter là. Parce qu'il sait très bien, Pilate, que Jésus est innocent. Et il le signale, pour moi, il n'a rien fait de coupable. Le prisonnier qui est mis en cause, injustement, est en très mauvaise posture. Pilate, gouverneur romain, va se laisser intimider par les chefs religieux. Parce qu'ils savent argumenter avec ce gouverneur. Ils ont des bonnes raisons de troubler l'état d'esprit, la conscience de Pilate. En tant que gouverneur romain, il est censé faire régner la paix dans cette province. Rome ne pouvait se permettre à l'époque de conserver partout de nombreuses troupes dans toutes ces régions conquises. Donc pour maintenir l'ordre, dès qu'il y avait une forme de rébellion, on l'écrasait immédiatement et brutalement. Les religieux sont en train de lui dire que s'il ne condamne pas Jésus, une partie du peuple va réagir fortement, une partie du peuple va se soulever et ses supérieurs à Rome vont la prendre. Pilate peut perdre sa place. Il a peur des conséquences. Il va donc céder au chantage. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Pour Pilate, Jésus n'est pas coupable. Pour lui, ce procès n'a pas de sens. Mais Pilate, dans sa lâcheté, il va céder. Ce que Jésus vient lui dire quand il dira « Mais tu te rends compte que j'ai le pouvoir d'eux ?» Puis Jésus dira « Mais tu as ce pouvoir parce que c'est permis par celui qui m'a envoyé. Mais ton pouvoir est très limité parce que celui qui est en haut, l'autorité suprême, c'est lui qui a toute autorité. » Et ça l'intrigue énormément, le langage de Jésus. Et il a envie de relâcher Jésus. Mais il va finir par le livrer et donc le condamner pour satisfaire les autorités religieuses. Alors, Je me suis dit, pour comprendre le sens profond de la croix, j'allais vous dresser, oh, elle n'est pas complète la liste, mais les chefs d'accusation que personnellement j'ai considérés dans ma réflexion. Le premier chef d'accusation, c'est lorsqu'il dit, je ne suis pas forcément dans cet ordre-là, j'ai regardé les synoptiques, j'ai aussi regardé d'autres épisodes avant la dernière partie de la vie de Jésus. Jésus s'est fait fils de Dieu. Il s'est déclaré fils de Dieu. C'est-à-dire, on lui disait, alors tu es le fils de Dieu, il ne commençait pas à faire tout un développement théologique pour dire, en trois points, je suis le fils de Dieu. Mais il acquiesçait, il confirmait, dans sa réponse devant le Sanhédrin, mais aussi devant Pilate, il dira, je suis. Il est donc considéré par les chefs comme un imposteur. C'est terrible pour des juifs d'entendre que cet homme se dit fils de Dieu. C'est un imposteur pour eux. C'est-à-dire une personne qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges en usurpant une qualité qu'il n'a pas. Pour ses opposants, c'est un acte extrêmement coupable, oser prétendre être Dieu. Il s'agissait pour eux d'une infraction terrible à la loi de Moïse qui était punie de mort. Mais mes amis, comment Jésus, quand on lui pose la question, peut-il dire le contraire alors qu'il sait qu'il est le Fils de Dieu ? Il sait qu'il est l'envoyé du Père. Il sait le chemin qu'il a parcouru. Il sait l'appel qui est le sien. Il sait comment il l'a exercé pendant ses 3 ans de ministère. Donc, il n'est pas en train de provoquer quand il dit « oui, tu l'as dit ». Il est juste en train de dire la vérité. La deuxième accusation, c'est qu'il s'est déclaré roi. Pour ses détracteurs, prétendre cela, c'est faire preuve d'un orgueil démesuré. Certes, ils attendaient le Messie, le Messie d'Israël, le roi de gloire qui devait venir, mais ne reconnaissaient en aucun cas Jésus comme le Messie qui est là. Donc pour eux, c'est un menteur, selon leurs critères. C'est une injure, c'est une espèce de moquerie par rapport aux prophéties qui doivent se réaliser au sujet du Messie qu'ils attendent. Pour eux, cet homme se moque de la Torah, se moque de l'enseignement biblique, mais il se moque aussi, pour eux, des autorités en place en disant « alors tu es donc plus grand que l'empereur ». Pour eux, c'est un tissu de mensonges. Dans sa comparution devant Pilate, que nous lisons aussi dans Marc 15, celui-ci lui dit que des accusations terribles sont portées contre lui. Ce n'était pas simplement au moment de comparaître devant le Sanhédrin ou devant Pilate ensuite. Ça faisait déjà longtemps que des rumeurs circulaient. Ça faisait déjà un certain temps que des gens l'accusaient et trouvaient toutes sortes de prétextes pour le condamner, pour un jour le mettre à mort. J'ai trouvé encore d'autres accusations. Depuis un certain temps, c'est ce que Pilate cherche à dire, il y a des accusations terribles contre toi. Et voilà ce que tes accusateurs disent. Voilà les bruits qui courent à ton sujet. Voilà ce que les autres disent de négatif sur toi. On dit que tu es un usurpateur parce que tu te promènes de ville en ville avec un faux titre de noblesse. Tu dis que tu es le roi des Juifs. Donc, tu es un usurpateur. Tu n'es pas du tout le roi des Juifs. De quel droit tu oses dire cela ? On dit que tu es un anarchique, que tu encourages le peuple à ne pas payer l'impôt de César. On dit que tu es un trouble-fête à l'ordre civil, en étant à l'origine de remous dans la région. Et bientôt, cela va se répandre dans tout le pays. Et c'est là que... Alors Pilate n'est pas en train de l'accuser en disant ça, il est en train de le confronter. Et il va dire, qu'as-tu à dire pour ta défense ? Et c'est là que Jésus nous surprendra toujours. Il n'a rien à dire, parce qu'il ne veut pas se justifier. Il ne veut pas argumenter. Oh, il pourrait. Il savait si souvent répondre à ceux qui l'interpellaient, qui l'affrontaient. Il avait si souvent le dernier mot, pas pour faire mieux que les autres, mais parce qu'il était rempli de la sagesse et de la direction de l'esprit. Il pourrait s'en sortir tellement bien, mieux que tous les procureurs du monde, mieux que tous les avocats du monde, mais il ne le fait pas. Au lieu de se justifier parmi, Jésus ne répondit plus rien, parce que c'est pour ça que j'ai mis cette image. Il veut porter la couronne d'épines. Il veut aller jusqu'au bout. Il ne veut pas contourner. Il ne veut pas s'en sortir pour terminer sa vie autrement que sur la croix. Sa mission, il veut l'accomplir jusqu'au bout, comme cette victime expiatoire, sur une croix injustement pendue au bois du calvaire, déclarée coupable par les hommes, non coupable devant Dieu. Alors il y a encore d'autres accusations, parce que c'est ce que Pilate dit, mais il y a toutes sortes de choses qu'on dit sur toi. Et il avait aussi, on voit ça dans d'autres versets, qu'il avait le culot, entre guillemets, dans certains épisodes, de pardonner les péchés. Vous vous rappelez de cela? Quand il guérissait, il disait aussi, et je te pardonne, je pardonne tes péchés. Pour eux, c'est un blasphémateur. Quelqu'un, dans la pensée juive, quelqu'un qui ose pardonner les péchés, si ce n'est Dieu, c'est un blasphémateur. Si ce n'est le Messie qui vient, les autres, ce sont des blasphémateurs. Et comme ils ne reconnaissent pas Jésus comme tel, ils blasphèment. Ils n'ont certainement pas manqué de dire encore d'autres chefs d'accusation. Du genre, vous vous rendez compte, Pilate, il avait l'audace de témoigner qu'il incarnait celui qui purifie les cœurs. Il prétendait purifier les cœurs. Mais c'est impossible, c'est insupportable d'entendre ça. C'est un faux libérateur. Donc, mes amis, l'ardoise est lourde. Vous m'entendez ce matin? L'ardoise est lourde. Les chefs d'accusation sont nombreux et tous très favorables en vue d'une sévère inculpation qui va le conduire droit à l'abattoir, l'agneau pascal immolé qui ira à l'abattoir. Selon la prophétie, 8 siècles auparavant, d'Ésaïe 53:7, il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau, hein, vous vous rappelez l'image du début, qu'on mène à l'abattoir ou à la boucherie, semblable à un agneau, à une petite brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, c'est-à-dire il ne s'est pas justifié. Il n'a pas cherché de bonnes excuses. Jésus a donc été cette victime de la machinerie humaine, ce complot d'envergure consistant à le mettre à mort. Dans ce procès intenté, il y a un innocent, c'est Jésus. Il y a des accusateurs, je n'y reviens plus. Il y a un président de tribunal, en quelque sorte, Pilate, qui n'avait pas choisi ce rôle ce jour-là, même si c'était lui qui avait le pouvoir de mettre à mort. Il y avait des témoins entendus, soudoyés par les autorités religieuses. Et puis il y avait la foule, avec des avis divergents. Alors, pour terminer mon propos de ce matin, je vais peut-être vous surprendre, mais pour comprendre la rédemption de nos péchés, imaginez que vous faites partie de la foule ce matin. Qu'on est dans cette foule, qu'on doit se prononcer, qu'on doit dire est-il coupable ou pas. Nous faisons partie de cette multitude et ce matin nous devons nous prononcer comme tout à nouveau. Est-il coupable Jésus à nos yeux? Bien sûr que non, nous avons envie de dire. Il ne méritait pas cette sentence. Le reconnaissons-nous vraiment comme cette victime innocente qui est allée à ma place sur la croix? Ça, c'est un langage très évangélique et je crois qu'il est très juste comme langage. Mais est-ce qu'on le réalise vraiment ou est-ce qu'on le dit parce qu'on est habitué? Ça fait partie de notre confession de foi. On va probablement dire oui, tu es mort à ma place. Mais ce matin, est-ce qu'on le réalise suffisamment? En tout cas, moi, je ne le pense pas pour ma propre vie. Mais j'aimerais mieux saisir cela, le sens profond. A-t-il eu raison de se sacrifier ? On aurait pu dire, mais ça aurait été tellement mieux qu'à Gethsémané, qui était un endroit où il allait souvent avec ses disciples, quand il voit les soldats arriver, qu'il parte, et puis qu'il change de pays, et puis tant pis, puis qu'il termine son histoire comme un héros qui a bien vécu, qui a marqué son histoire, puis qui a fini, on ne sait pas trop où. A-t-il eu raison de se sacrifier ? L'enjeu en valait-il vraiment la peine ? Et c'est là que nous pensons à Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mesurons-nous le rejet, le mépris, la haine qu'il a enduré à notre place afin que nous soyons sauvés. Vous savez, quand on est accusé injustement de quelque chose, c'est très douloureux. Lui, il était accusé de tous les maux du monde. Pouvons-nous tester ce matin notre confession de foi par rapport à Jésus ? Est-ce que vous pouvez dire avec moi que les chefs d'accusation, parce que là j'ai repris en fait les chefs d'accusation qui étaient prononcés comme une malédiction, je les ai repris pour les transformer en bénédiction. Est-ce que pour moi ce matin, il est le Fils de Dieu ? Est-ce qu'il est le roi des rois, le Messie de ma vie ? Est-ce qu'il est le roi des Juifs, mais aussi l'épouse du Christ, l'époux du Christ, pardon ? Est-ce qu'il est le modèle, l'époux de l'Église ? Est-ce qu'il est le modèle pour le peuple ? Est-ce qu'il est le prince de la paix, alors qu'on disait que c'était un trouble fait ? Vous vous rappelez ? Est-ce qu'il est celui qui est capable de pardonner tous nos péchés, pas seulement avant notre conversion, mais mes péchés de hier, de ce matin, de demain? Est-ce qu'il est capable de pardonner tous nos péchés? Alors, en ce jour de Vendredi Saint, merci Jésus, merci Seigneur pour ta venue sur cette terre. Tu es mort à ma place, sur le bois du calvaire. Je suis tellement reconnaissant que tu es mon sauveur. Je te demande une nouvelle révélation de la croix, de sa signification profonde. Oui, tu es cette victime expiatoire. Que le Saint-Esprit puisse me parler à mon cœur ce matin, afin d'avoir une compréhension nouvelle de ton œuvre accomplie, en donnant ta vie en rançon de tous les êtres humains, de cette terre et de tous les temps. Je t'aime, mon Sauveur. Amen.